Vous écoutez
RMC.
RMC.
On est tous ensemble, quand on gagne ensemble, on gagne tous ensemble, on fait tous ensemble, et quand on perd, faut être tous ensemble. Faut avoir les coups de soudé tous ensemble, serrer les mains.
Ils ont voulu vraiment s'assassiner, ils ont tiré vraiment une épingle dans le pied tout seul.
C'est clair que la confiance, ce n'est pas une chose que tu achètes à Monoprix.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02, l'after est là jusqu'à minuit bien sûr. Demain, avec Maxime Chalot, Kevin Diaz, il y aura le match de Monaco. Ce sera à 20h, match aller de barrage de Conférence Ligue en Pologne face au Górnik Zabrze. Je ne sais pas si je prononce bien le Górnik Zabrze.
L'accent n'est pas mal en tout cas.
Ouais. Demandera à Ludovic Obraniak, qui parle couramment polonais, bien sûr. Club qui appartient à Podolski, vous le savez.
Ouais, j'allais le dire.
Ah. Bon, normalement, franchement, on a du mal à envisager que ça passe
à
Monaco.
Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire
match retour à Monaco.
C'est un jeudi. Le match est un jeudi, tu peux pas dire ça.
Ah, parce que jeudi noir.
Tu peux pas dire ça dans ton émission l'Afterfoot.
Excuse-moi.
Voilà, merci.
Mais moi, franchement.
Si ça avait été aujourd'hui le match, t'aurais dit oui. Mais le jeudi, on ne sait pas.
D'accord.
Avec les clubs français.
C'est vrai que c'est un peu.
Restons vigilants.
Ça peut être flippant. On va parler mercato dans quelques instants avec Fabrice Hawkins, mais juste avant quelques infos sur ce match, juste pour vous dire quand même qu'il manque beaucoup de monde à Monaco. Ce sera une équipe très jeune demain. Ablin n'est pas là parce qu'il a pris un coup en match amical contre Coventry, il a des points de suture. Balogun, phase de reprise, pas là. Ansu Fati, problème au mollet. Golovin suspendu. Koulibaly suspendu.
C'est-à-dire bonjour, on n'a pas parlé de Pogba.
Et Pogba, il est plus là, il est parti. Ouais.
Non, mais c'est quand même une info, quand même.
Bah, Fabrice est là. Fabrice, bonsoir.
Salut à tous.
Salut Fabrice. Fabrice.
Salut Fabrice.
Ah, ça y est. Le jingle Fabrice Hawkins. Le faucon a atterri. C'est parfait. Ça se passe bien le mercato, ça va? T'as encore de l'énergie, t'es encore à bloc, il y a encore quelques jours à tenir.
Oui.
Ah, téléphone qui sonne, c'est un agent, c'est un directeur sportif.
Exactement. C'est un agent. Ça sonne tout le temps. Il y a pas d'heure. Là,
c'est fort.
C'est les deux dernières semaines, donc ça va s'activer. En plus, on a eu un mercato qui a eu un petit peu du mal à commencer. Il y avait la Coupe du Monde. Les clubs regardaient aussi. En France, il y a pas énormément d'argent. C'est surtout les Anglais qui ont démarré très fort comme d'habitude.
Ouais, bah alors là, en France,
sur les deux dernières semaines,
qu'est-ce qu'on vend bien là ces derniers jours? C'est incroyable.
Il va y avoir des choses. Ah oui, c'est le cas de le dire, surtout chez toi à Strasbourg.
Ah, Strasbourg, 170 millions de ventes.
Vous vous régalez.
C'est un truc de fou. Bah, maintenant, le problème, c'est que faut voir si les mecs qui arrivent sont au niveau. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Là, on était sur Pogba. Donc Pogba, il a fait d'ailleurs un message sur les réseaux sociaux aujourd'hui de remerciement, tout ça. Il y a une possibilité de rebond pour Pogba, parce que qui va en vouloir de Pogba toujours blessé?
C'est la question en fait. C'est très compliqué de savoir dans les gens qui sont bien renseignés, qui étaient notamment qui ont été dans l'opération Pogba à Monaco. On nous explique qu'il y a des rebonds possibles, des championnats notamment en Arabie Saoudite, en MLS. Après, c'est pas des oseaux non plus. Hein. Il voit les matchs, il voit qu'il a joué 115 minutes sur une saison, que c'est compliqué.
Oui.
Les salaires sont plus ceux qu'ils étaient avant. Donc, je vais pas dire que c'est impossible pour lui de trouver un projet parce que ça reste Paul Pogba. Il a une image à faire valoir aussi, ce qui est un plus par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Mais c'est sûr que sur les conditions et sur ce que lui va demander, il va falloir qu'il soit cohérent. Et je pense qu'il est aussi dans cet état d'esprit-là. Donc, des championnats, oui, en MLS aux États-Unis ou en Arabie Saoudite ou même au Qatar, c'est des championnats qu'il faudra regarder de près pour Paul Pogba dans les prochaines semaines.
Bon, on verra. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est triste quand même, hein, parce qu'on espérait qu'il puisse au moins faire quelques matchs, mais même quelques matchs, il n'aura pas réussi à les faire. Quoi. Enchaîner 3-4 matchs titulaires, ça aurait été vraiment très très compliqué. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit non plus quelque chose de forcément clinquant, mais quand même, je pensais qu'il arriverait à jouer un peu plus. En tout cas, je lui souhaitais.
C'est dommage, après... Tu sais, avec une Ligue 1 qui va de plus en plus vite. Moi, je l'avais vu, hein, je l'avais dit il y a quelques jours. Je l'avais vu à Miami avant qu'il signe à Monaco. Et physiquement, il était bien trop musclé. Je parle vraiment de muscle, hein, pas gros, hein, musclé. Mais quand
tu regardes, il a fait trop de muscu.
Ah ouais, il bougeait plus, tu vois. Et puis c'est important quand t'es milieu défensif. Alors certes.
Ça, depuis le temps qu'on dit que la muscu c'est l'ennemi des footballeurs.
Je peux te
dire. Et c'est la grosse mode. Ouais. Dans tous les footeux, ils font de la muscu.
Ah ouais, parce que faut
savoir si c'est de la muscu Instagram ou si c'est de la muscu de renforcement.
Ah ouais, c'est de la muscu Instagram en l'occurrence.
Et je me souviens m'être positionné quand il était arrivé à Monaco. Je pensais pas que c'était une bonne idée parce qu'on parle de sa suspension, mais avant sa suspension, il avait déjà été pas mal blessé quand même. Sans parler de toutes ses affaires. extra-sportive. Donc non, c'est vrai que c'est triste. Hein. On a eu un super Paul Pogba en 2018. Voilà, je pense qu'il faut fermer les yeux et se rappeler de ce souvenir-là. Maintenant, ça sera intéressant. Fabrice l'a dit, hein. Je ne vois pas quel club va pouvoir se positionner sur un Paul Pogba qui a joué.
Non, parce que Fabrice parle de MLS, toi qui connais bien la MLS. Ouais, c'est pas trop le truc de la maison d'aller prendre des mecs.
Surtout pas. Alors après, t'as l'aspect marketing hein, qu'il faut mettre en avant. C'est un peu le cas avec, par exemple, Griezmann du côté d'Orlando, même si Griezmann sportivement est encore plus que compétitif. Tu sais, t'as le problème des contrats, tu sais, de joueurs désignés aux États-Unis. C'est-à-dire, t'as le droit qu'à trois joueurs qui ne sont pas soumis au salary cap. Et aujourd'hui, quand un club prend une option sur un joueur qui fait partie de ces trois joueurs-là, eh ben, il faut être sûr qu'il ne se trompe pas, parce que sinon, vraiment, ça plombe complètement le budget. Donc,
est-ce que Pogba pourrait ne pas être un joueur comme ça?
Ben oui, mais comme je l'ai dit, c'est-à-dire que comme tu as très peu de place, en règle générale, les clubs essaient de ne pas se tromper. Alors,
non, mais est-ce qu'il pourrait être autre chose qu'un des trois joueurs?
S'il vient pour moins d'un million cinq, mais connaissant Pogba, il a quand même une.
Bah, il peut venir pour moins d'un million cinq,
qui pourrait lui permettre de pouvoir encore aller chercher de l'argent, peut-être en Arabie Saoudite ou au Qatar.
Moins d'un million cinq, tu vas à New York, tu es obligé d'habiter à Hoboken. Hein.
Mais c'est vrai que non, ça serait intéressant de voir quel club sera pas intéressé mal à enchaîner avec Pogba. Ouais, pas mal.
Je connais deux, trois restos pas mal à Hoboken.
Ouais. Quand tu regardes Lukaku qui avait très peu joué au Napoli, il a retrouvé un truc, donc bon, qui sait. Turquie cherche beaucoup de joueurs en ce moment.
Ah ouais, c'est vrai que t'as pas parlé de la Turquie, Fabrice. Ouais,
Fenerbahçe pour refaire
et ils ont des moyens.
Ils ont des moyens.
Ouais, mais ça reste quand même des clubs qui recherchent des joueurs. Vous voyez bien, vous avez vu Fenerbahçe contre Lyon, N'Golo Kanté, tous ces joueurs-là.
Ils ont tellement
c'est
de joueurs,
des joueurs qui ont du ballon.
Ils se retrouvent avec Under et Amrabat, ils sont pas sur la liste européenne.
C'est ça que je veux dire.
Parce qu'il avait fait
des joueurs qui sont aptes et qui peuvent jouer.
Bon, pour finir sur Monaco, écoutez juste Felipe Luis, le coach, qui parle de l'importance de jouer l'Europe pour Monaco.
C'est très important pour moi et pour le club. Monaco doit participer aux compétitions européennes. Nous pensons donc pouvoir réaliser une excellente saison et c'est pourquoi il est également important de disputer des compétitions européennes afin que tous les joueurs puissent avoir du temps de jeu et se livrer à une saine concurrence. Nous pensons pouvoir réaliser un beau parcours, mais nous devons d'abord remporter ce match. Ça va être vraiment difficile. Ils sortent des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Ce n'est donc pas un adversaire facile. Il n'y a plus d'adversaire facile de toute façon en Coupe d'Europe. Donc nous avons un énorme respect pour eux et on pense juste à gagner ce match.
Voilà, de la bonne langue de bois comme on aime.
Ouais.
On remercie Felipe Luis. On verra, on espère que le club va gagner demain. C'est-à-dire sur le fait que le club polonais, ils sont super forts.
Non, j'espère pour Monaco qu'ils vont être en mesure de pouvoir battre ce club, mais d'un point de vue Ligue 1 et d'un point de vue effectif actuellement de l'AS Monaco avec un nouvel entraîneur, avec un cycle qui va être sur le moyen terme cette fois-ci à Monaco, c'est rarement le cas, mais bon, qui sait. Je pense que d'avoir un club qui se bat uniquement sur un tableau, c'est-à-dire dans le championnat de Ligue 1, ça serait forcément bénéfique. Et tu l'as vu la dernière avec Lens, hein, lorsqu'on parle de saison de transition, justement, de pouvoir se concentrer uniquement sur la Ligue 1, ça peut être bénéfique pour le club.
Bon, alors Fabrice, on va dans quelques minutes aborder les gros dossiers. Là, on va parler de Boadi, de Fernandez Pardo, d'Ibrahim Baye, de Barcola, de Guiri et des autres. Mais il y a le tout venant de la journée, là, quand même, dont il faut parler en préambule. Et notamment, ce qui s'est passé aujourd'hui entre Lille et Strasbourg. Tu as les petites infos du jour, là. Démarrons par Lille, tiens.
Ouais, Lille qui est sur un attaquant, Zian Fleming, qui est pas très connu ici en France. Hein. C'est un profil d'attaquant très grand, 28 ans. Il est passé par l'Ajax notamment, auteur de 11 buts en 29 apparitions la saison passée en Première Ligue avec Burnley. Donc ils ont approché Burnley pour essayer de faire ce joueur-là.
Fortuna Sittard, je crois.
Exactement. Et on aimerait finaliser autour de 15 millions d'euros pour Lille. Bon,
Burnley, pour un mec qu'on connaît pas, 15 millions quand même.
Il est pas mal. Sur les deux premiers matchs de Championship, il a été très fort, notamment avec trois buts. Tu vois, Gilbert, donc ouais. Il compte dessus Burnley et je pense qu'ils vont pas le lâcher. En tout cas, ils vont pas faire de facilité à Lille.
Bon, donc voilà ce joueur. Et puis Strasbourg s'intéresse également à un avant-centre.
Ouais, ça c'est pas nouveau, mais ça s'est un petit peu intensifié. Hein. Lucas Tassin, donc l'attaquant de Saint-Étienne, il est très courtisé parce qu'il y a pas mal de clubs évidemment qui sont positionnés sur l'attaquant de 21 ans, l'attaquant belge en Europe et en France. Et donc parmi les clubs qui sont bien intéressés par Lucas Tassin, il y a Strasbourg. Il faut voir là aussi comment ça négocie avec Saint-Étienne parce qu'ils vont faire jouer la concurrence évidemment. Officiellement, ils veulent le garder. Officieusement, si le prix adéquat arrive sur la table, ils vont le vendre. Reste à savoir quel est ce prix-là qui n'a pas été communiqué là aussi officiellement.
Alors Stassin, il devait déjà partir il y a un an. Enfin, il voulait. Finalement, il est resté. Il n'a pas fait une saison géniale. Hein.
Ouais, non, il a mis ses 10 buts quand même. Hein. Il a mis ses 10 buts. C'est ce qui prouve aussi sa fiabilité. Et c'est ce qui est apprécié chez les directeurs sportifs. Kevin ne va pas me démentir. C'est vrai que sur ces.
Il a eu du mal à démarrer quand même, hein, Fabrice. Il a été meilleur sur la deuxième partie de saison. Mais,
ouais, mais c'est parce qu'il n'avait pas pu
partir. Il a eu du mal à digérer son non-transfert. Ouais.
Exactement, mais ça reste quand même un avant-centre qui met des buts, et c'est ce qu'on leur demande à ces avant-centres-là. Il est jeune, c'est-à-dire qu'il a une marge de progression. Pour Strasbourg, c'est aussi toujours très intéressant d'avoir ces profils jeunes qu'on peut valoriser et vendre beaucoup plus cher. Donc, il coche beaucoup de cases, en tout cas, et c'est ce qui fait que beaucoup de clubs sont intéressés.
Bon, Strasbourg, t'as Panicelli qui va revenir aussi, hein, donc c'est à ça...
Ouais, il peut y avoir des départs aussi. Hein. Strasbourg, je pense que les deux dernières semaines...
Arrête, il y a déjà 40 joueurs qui sont partis.
Bah oui,
là,
mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, je peux te dire que Strasbourg va encore animer le mercato sur les deux prochaines semaines.
Hmm. Ah, tu penses ça peut encore partir de... Attends, qui pour encore Guéladoué, par exemple?
Totalement, par exemple. Mmh. Par exemple, même devant, je pense que
Doucouré,
ça peut un petit peu bouger. Doucouré, il peut totalement bouger.
Bah, il veut déjà,
j'ai entendu parler de lui et pas plus tard qu'aujourd'hui dans un club de Ligue 1. Donc non, je pense qu'il va y avoir des départs et peut-être des arrivées, mais des départs, je pense que c'est quasi certain.
Bon, ouais, on va peut-être attendre les 200 millions de ventes. Ce serait un truc de fou.
Ah, faites des arrivées aussi.
Qu'est-ce que tu penses avec ton club? Qu'est-ce que tu ressens avec ton club en ce moment?
Moi, déjà, j'hallucine des prix. Je ne sais pas qui gère les ventes à Strasbourg, mais ils sont trop forts. Comment tu arrives à vendre Enciso 35 millions?
Ah, c'est un truc de fou. En première ligue, Gilbert, maintenant, en première ligue,
il vaut ça.
N'importe quoi.
Après, des fois, tu te demandes, hein, ça peut être des exercices comptables, tu m'achètes, je te vends.
Diego Moreira, 50 millions d'euros à Milan.
Bien sûr,
16 millions d'euros de bonus.
Excusez-moi, je prends la valeur de Moreira, c'est un super joueur.
Moreira, non, mais 50 millions.
Moreira, c'est exceptionnel.
Ça part quand même à quasiment 70 millions d'euros, bonus compris.
Ah, ok, mais ça me si tu veux, je suis moins choqué par ça que par Enciso.
Parce que c'est un international, il a joué
non, moi,
la Coupe du Monde, il est
choquant. Enciso que Moreira, je suis désolé, Gilbert. Enciso, c'est un international, c'est un joueur phare de son pays, ok, c'est pas une grande nation.
Le national
mais...
du Paraguayen qui habite 4 millions d'habitants.
Il faut une Coupe du Monde. Il faut une Coupe du Monde correcte. Il fait une Coupe du Monde correcte. Derrière, il a fait une bonne saison avec Strasbourg.
Enfin, quand le jeu est à droite, Enciso, il va à gauche, il lève jamais la tête.
Ouais, mais c'est
tu l'as vu jouer quand même.
Moreira aussi, des fois, quand il était à Lyon, personne ne l'avait remarqué.
Moreira, il était plus jeune.
C'était il y a pas si longtemps, donc il a bien progressé. Peut-être qu'Enciso, il le voit du potentiel. Le problème, c'est ce qu'on disait hier, c'est qu'aujourd'hui les joueurs ne sont pas recrutés pour leur talent pur, ils sont recrutés pour leur potentiel. Donc
potentiel. Leur potentiel revente. Et il est encore jeune, Enciso, il a 22 ans, donc à tout moment, si ça fonctionne bien Ipswich, derrière, ils font une bascule. Hein.
Bon, enfin, aujourd'hui, sur le marché des transferts, les joueurs entre 18 ans et 22, 23 ans, c'est que du trading.
Bah, bien sûr.
Donc effectivement, comme le disait très justement Kevin, il y a une partie du prix du transfert, c'est la valeur du joueur, et l'autre, c'est le potentiel. Et sur le potentiel, ça peut monter très très haut.
Mais comment tu juges ça, Fabrice?
Il y a un reportage actuellement qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est la saison de Manchester City, la dernière avec
Kevin en parle.
Et voilà. Et dans ce reportage-là, ils expliquent que Ryan Cherki a été choisi notamment avec des datas. Donc, ils ont pris 43 mesures et ils l'ont mis dans un logiciel. Et ils ont trouvé que le joueur qui pouvait le plus ressembler à Kevin De Bruyne dans les années à venir, c'était Ryan Cherki. Donc, comment on le mesure? Aujourd'hui, c'est vrai que l'IA aide énormément les clubs. Il n'y a pas que l'IA, mais c'est un outil aujourd'hui qui aide de plus en plus de clubs à chercher certains profils, à imaginer leur progression et ce qu'ils peuvent en tirer.
Et ce qui est très intéressant,
mais ça reste quand même des paris.
Oui, mais c'est toujours des paris.
Bien sûr, c'est des paris.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que disait Fabrice, moi j'en parlais tout à l'heure, c'est que j'écoutais à la pub la fin de l'extrait où il y a une discussion, je crois que c'est le directeur général et l'autre c'est le propriétaire de Manchester City, où ils disent bon, on a interrogé 4 entraîneurs sur Ryan Cherki. Bon, il y en a un qui nous a fait vraiment un très très mauvais retour sur sa mentalité, mais il était jeune. Je pense que cet entraîneur là c'est peut-être le néerlandais, possible.
Peter Bosz.
Ouais, voilà, je pense. En tout cas, c'est ce que je semble comprendre. Et par contre, là le propriétaire lui répond quelque chose. Alors, j'ai pas encore vu la série, mais de ce que je comprends, c'est qu'il lui dit ouais, mais là va peut-être falloir accélérer parce que là, je pense que le produit est quand même undervalued. Ça C'est-à-dire que pour eux, la valeur de Cherki, elle est quand même sous-estimée, justement à cause de cette histoire de mental. Donc eux, ils se disent, ouais, mais attends, c'est bien beau leur histoire de mental. Bon, on va peut-être appeler l'agent, parce que pour le mental, on verra peut-être après. Parce qu'il lui dit, c'est peut-être un mythe, l'histoire du mental. Mais là, on pourrait prendre un joueur qui est moins cher que ce qui se fait sur le marché. Et donc, c'est pour ça que Cherki est parti pour une somme, disons, par rapport à Nzizo ou par rapport à Morera, qui était bien en dessous de son prix potentiel sur le marché.
Cherki, légèrement en dessous de 40 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut 90, 100, 110 millions d'euros.
Apparemment, Cherki, c'est mal vendu.
Non, c'est pas mal vendu. C'est justement.
C'est mal vendu.
Si, c'est peut-être mal vendu. Ou alors c'est bien acheté plutôt que mal vendu.
C'est juste qu'il faut préciser, messieurs, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi un gentleman agreement qui faisait qu'ils ne pouvaient pas aller non plus dans les tours sur les prix. Ils ont profité de ça.
Exactement ça. Si tu le vends dans deux ans, c'est différent. Là, ça augmente de plus en plus. Ça a été indexé sur les derniers transferts.
N6O, ça t'a empêché de dormir, ça, quand même.
Ah, tu devrais être content, non, 30 millions dans les caisses de Strasbourg.
Moi, je trouve ça fascinant.
Pour un joueur que t'aimes pas.
Non, mais c'est fascinant. Ouais. Comment tu vas mettre 35 millions d'euros sur ce mec?
C'est ce qu'on disait hier. Tu sais, c'est comme les gens qui ont beaucoup d'argent, je reprends mon idée, et qui vont te chercher un t-shirt qui est catastrophique pour toi, mais parce que c'est telle marque, et ben ils vont le payer 270 euros, ou même peut-être 570 euros, mais ils sont contents parce que c'est la marque. Mais le truc, il est claqué au sol, mais c'est la marque, donc ils sont contents. Là, c'est un international, c'est un mec de qui vient de Strasbourg.
Les bijoux,
c'est la même chose. Là, c'est un gars qui est international, qui a marqué des buts, ils se disent que peut-être que le gars...
Ils ont tellement d'argent, les clubs de Première Ligue, finalement, ils regardent pas.
Moi, c'est surtout ça, Fabrice. Moi, j'ai l'impression que les clubs de Première Ligue, c'est les pigeons ultimes du football mondial aujourd'hui.
Tu sais, il y a des incompétents
en Première Ligue. En fait, ils ont tellement d'argent que c'est même pas une histoire de pigeons. C'est-à-dire que... Ils peuvent acheter des milieux de terrain, on l'a vu avec Manchester City, 130 millions d'euros. Moi, je me souviens quand ils ont acheté Elliot Anderson de Nottingham, je parlais avec des dirigeants, des directeurs sportifs, même ici en France, qui disaient en fait ils ont acheté un joueur qui est même pas plus fort que Warren Zaïre Emery, ils l'achètent à un prix extra, quoi. Donc, ils ont énormément d'argent dans les clubs de Première Ligue et ils s'en servent. Je te dis pas qu'il est nul, je te dis juste qu'à ce prix-là, personne ne l'aurait imaginé il y a deux mois.
Sur la Coupe du Monde notamment.
Oui, c'est vrai que les prix anglais, c'est peut-être ça aussi.
Bien sûr, l'index des transferts actuellement.
Le prix de Morgan Rodgers, par exemple, d'Aston Villa Chelsea, 140 millions d'euros.
Après, c'est sur des transferts
que s'est basé le Paris Saint-Germain pour dire Bradley Barcola, tu as raison, mais c'est sur ce transfert-là que le Paris Saint-Germain, notamment, s'est basé pour dire Bradley Barcola, ce sera pas en dessous de 140.
Bah, on va en parler dans quelques instants, justement, de Barcola et des autres, parce qu'il y a quelques gros dossiers.
Il va rester au PSG, quoi.
Alors, tous les gros dossiers dont on parle, c'est des dossiers en mode départ, de Boadi à Barcola, en passant par Gouiri. On va balayer tout ça, bien sûr, dans quelques instants avec Fabrice. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
23h21, le Mercato dans l'after à deux jours du début de la Ligue 1. Mercato, pourquoi? Parce qu'il y a une liste de joueurs assez importante qui pourrait partir et pas des moindres. On va parler des Lillois Boadi et Fernandez Pardo dans quelques instants. On va parler de Gouiri, on va parler de Fofana à Lyon et d'autres joueurs. Mais démarrons donc par Barcola et par Mbaye, donc en gros les deux joueurs du PSG concernés. Donc Barcola, on parle de Liverpool. J'ai vu passer des trucs aujourd'hui sur les réseaux en mode Barcola qui se voit déjà à Liverpool. Alors, qu'en est-il de la situation ce soir, Fabrice?
La situation, elle n'a pas beaucoup évolué sur les derniers jours. On le dit, on en parlait même avec Kevin, je me souviens, aux États-Unis. C'est-à-dire que Bradley Barcola, aujourd'hui, on le sait, c'est clair et net, il veut rejoindre Liverpool. Il y a même un accord qui a été trouvé entre le joueur et le club anglais. Le Paris Saint-Germain, ils ont été avertis suffisamment tôt de cette volonté-là. Ils ont accepté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de retenir Bradley Barcola. Là où ça coince depuis maintenant plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, c'est sur la valorisation de Bradley Barcola, où le Paris Saint-Germain est parti de 170 millions d'euros. Maintenant, ils sont enclins à baisser quand même un petit peu. Et Liverpool est parti aux alentours de 80 millions d'euros.
Pigeons, allez, on vous le fait à 170.
170.
Sauf que les autres, ils ont dit que ce sera 80. Donc, on est parti
ils ont
quand
80.
Même de très, très, très loin.
C'est une question de négociation.
Et au départ, oui, les premières heures,
ils sont partis de 80, c'est intéressant.
C'était fait exprès.
Voilà, exactement. Ils sont partis de 80 plus bonus.
Moi, j'ai dit que c'était 90. Tu vois, je suis pas loin.
Donc, ils ont fait d'autres offres depuis, verbales, pas encore d'offres écrites, parce que, bon, à ces niveaux-là, la prochaine offre écrite, à mon avis, ce sera la bonne. Mais on a bien compris que ça allait se jouer entre 130, 150, quelque part par là. Mais en tout cas, ça se jouera pas en dessous de 120 millions d'euros pour Bradley Barcola, Liverpool.
C'est-à-dire que le PSG a fixé une sorte de plancher, il y aura en dessous de 120, ce sera non, quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça que je.
Même Liverpool le sait, de toute façon. Liverpool le sait. Ils sont partis très bas parce que si la première offre, ils la font à 110, 120, 130, vous êtes sans doute des meilleurs négociateurs que moi, mais vous savez comment ça se passe. La deuxième offre, on s'attend à ce que.
Je n'ai jamais rien négocié pour 120 millions d'euros, mais.
Non, mais du coup, ouais, c'est vrai que. On va dire qu'il n'y a pas un prix plancher, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain sait qu'en dessous d'une certaine somme, ça ne le fera pas.
En fait, ce que je comprends quand même là, c'est que, bon, globalement, il va y avoir un accord. C'est ça, on peut raisonnablement le penser, Fabrice.
En tout cas, toutes les personnes autour de ce dossier pensent qu'il y aura un accord.
Non, mais bon. Moi, je veux quand même. Je suis désolé de faire le rabat-joie, mais je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de commenter, en fait. On est en train de commenter un club comme Liverpool. Pour le coup, c'est pas Chelsea, là. Liverpool, l'année dernière, ils ont acheté Ekitike. Derrière, ils ont acheté Isaac, ils ont acheté notre ami Wirtz, et maintenant ils vont mettre Barcola aussi dans la balance. Non mais les mecs, en fait, ça fait 4 mecs qu'ils achètent à plus de 100 millions d'euros. Il y en a un qui s'est blessé, malheureusement, ça peut arriver pour un footballeur. Il y en a un autre qui été catastrophique toute la saison, c'est Isaac. Il y en a un autre qui a jamais atteint son niveau du Bayer Leverkusen, c'est Wirtz, mais ils vont remettre 140 ou 120 patates sur un mec qui il y a 3 ans était inconnu en U19 de Lyon. Non mais franchement, même si derrière il a fait sa saison et tout, il est international français, mais est-ce qu'à un moment on va se rendre compte que le football il marche sur la tête, en fait, ou c'est pas possible?
Après, dans les clubs anglais notamment,
j'adore l'Angleterre, mais c'est ridiculissime. Alors, ce qui
attends,
se passe là-bas.
Tu n'es pas d'accord sur le fait qu'ils choisissent Barcola ou pas sur
Non, non, c'est pas que je t'ai parlé des autres
ou,
aussi.
Ou sur le fait qu'ils le payent.
Je te dis que hier j'en parlais différent. Avec Daniel, ouais. Il faut absolument qu'on fasse venir un économiste pour nous expliquer le nombre depuis Coutinho.
Ouais.
Depuis le nombre de transferts, je ne parle même pas que de Liverpool, mais le nombre de transferts dans le football mondial qui ont dépassé une certaine somme, c'est-à-dire des sommes complètement déraisonnables, 90, 100 millions. À partir du moment où déjà Ronaldo il est vendu 100 millions, je crois, Cristiano. Donc là, ok, c'est Cristiano Ronaldo, je peux entendre.
Bien sûr,
mais après des joueurs qui sont à peine top 20 mondial, à peine top 15, qui dépassent 100 millions d'euros. Non, mais je sais pas si on se rend compte avec des budgets football qui sont autour de 800 millions pour les grands clubs.
Les droits télé qui ont augmenté.
Mais peu importe.
Depuis le début de la planète de Mercato, il y en a déjà 4.
C'est ridiculissime.
On a eu ce débat un peu plus tôt.
Ridicule.
Kevin Diaz n'est pas d'accord avec le prix que Liverpool pourrait payer pour Barcola, mais il y a une réalité. J'imagine que ce transfert, il est aussi indexé.
C'est pas que Barcola, hein.
Non, en règle générale, on parlait de Barcola aujourd'hui. Le transfert de Barcola, on est d'accord, il est indexé sur ce qui s'est fait un peu plus tôt. Il est indexé sur le transfert d'Isaac, de Coutinho, de Dembélé, de Kylian Mbappé et Neymar, et en fonction de l'âge.
Non, mais il faut même pas aller chercher plus loin. Comment? Il faut même pas aller chercher plus loin. Morgan Rodgers, Aston Villa, Chelsea, 140 millions d'euros.
Mais après, c'est un peu différent parce que c'est différent.
Yann Diomandé, Yann Diomandé au Real Madrid.
Mais voilà, je suis
ridicule,
d'accord avec toi.
Ridicule.
Mais ridicule, on est d'accord. Mais aujourd'hui, c'est indexé, c'est tel quel, ça ne changera pas. Mais je suis d'accord avec toi que Barcola, 10 ans en arrière, jamais il aurait coûté ce prix-là. Mais c'est la réalité du football moderne. Maintenant, on peut se poser la question, lorsque ça va s'arrêter. Parce que là, on est sur 145 millions pour Barcola, et dans 10 ans, il va valoir combien? On va être sur du 250, 300 millions. On parlait d'une bulle spéculative, je me souviens, post-Covid, en disant que ça allait se terminer. Et finalement, c'est de pire en pire.
Alors, pendant ce temps-là, Mbaye, c'est moins cher.
Hein, ça reste quand même démesuré par rapport à ce qu'il a fait dans le foot.
Où en est-on du dossier Ibrahim Mbaye?
J'ose pas dire le prix demandé par le Paris Saint-Germain, d'abord parce que j'ai pas eu la confirmation, et quand j'aurai la confirmation, ce sera évidemment sur rmcsport.fr, mais j'ose pas dire ce qui circule parce que vous allez perdre Kevin, il faudra.
Kevin va faire un malaise.
Défibrillateur. Ah non, ça c'est sûr et certain.
C'est gros.
En tout cas,
30 000
En tout cas, c'est plus de 60. Ah non, c'est plus de 60.
Plus de 60 Ah ouais, le PSG aussi sont bien.
Donc finalement, par
le PSG, c'est fort. Franchement, c'est fort.
Bah non, c'est pour ça que.
Je sais pas ce qu'ils vont forcément avoir.
En tout cas, s'il n'arrive pas à faire baisser le prix, Liverpool, c'est un transfert qui ne se fera pas. C'est-à-dire que Ibrahim Baye, lui a clairement montré la porte de sortie. Lui est très à l'aise aussi avec ça, parce qu'il est ouvert tout à fait à un nouveau projet qui serait donc Liverpool, puisqu'il a trouvé un accord contractuel. C'est pas le plus dur dans le football de trouver un accord contractuel. Maintenant, ce qui va véritablement poser problème, c'est l'accord entre les clubs, parce que vous l'avez compris, Liverpool négocie déjà pour Bradley Barcola, qui est la top priorité, ils veulent vraiment le faire, et comme je vous l'ai dit, je pense que ça va aller au bout, en tout cas c'est le sentiment de tous les acteurs autour de ce dossier. Et dans un deuxième temps, donc il y a Ibrahim Baye, sauf que le Paris Saint-Germain demande un montant quand même qui est conséquent, et pour le moment Liverpool n'est pas prêt à accepter ça. Autant pour Bradley Barcola, ils sont assis à la table en disant bon, on va négocier, on va trouver un terrain d'entente. Autant pour Ibrahim Baye, ça risque d'être un peu plus problématique. Mais pour l'instant, ça négocie toujours. Il y a une volonté de Liverpool, effectivement, d'attirer Ibrahim Baye, qui a quand même une petite cote sur le marché et qui a d'autres clubs qui sont sur lui si jamais cette piste n'aboutit pas.
Bon, voilà pour ces deux joueurs. Maintenant, passons aux Lillois. Parce qu'il y a deux cas Lillois là qui sont intéressants.
Ah, c'est brûlant là-bas aussi.
Donc Boidy et Fernandez Pardo. Alors démarrons par Boidy, parce que là aussi, Olivier Létan, je pense qu'il va demander une somme à la hauteur d'Olivier Létan.
Du potentiel.
Alors qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir sur Boidy?
Bah, sur Ayoub Boidy, déjà sur les chiffres, effectivement, et ça je pense pas révéler un secret, mais il y a une volonté d'Olivier Létan de au moins atteindre la barre des 100 millions d'euros pour Ayoub Boidy, ce qui serait stratosphérique à l'échelle de la Ligue 1 et à l'échelle de Lille pour ce jeune joueur-là. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a vendu Lenny Euro, à qui il restait une saison de contrat, 70 millions d'euros à Manchester United. Donc il sait vendre Olivier Létan. Donc là, voilà, c'est fixé. Entre Ayoub Boidy, entre Ayoub Boidy et Manchester City, il y a quasiment un accord. Hein. C'est pas ça qui va poser problème. Et maintenant, donc, les clubs sont en négociation depuis maintenant plusieurs semaines. On entend à peu près tous les jours que l'accord a été trouvé, qu'il va passer sa visite médicale. C'est pas encore le cas. Les négociations se poursuivent et il y a une volonté, en tout cas, de toutes les parties, on peut le dire, de trouver un accord. Il avait été question qu'Ayoub Boidy parte à Manchester City, enfin, signe à Manchester City, soit prêté une saison pour jouer la Ligue des Champions avec Lille et retourne à Manchester City l'été prochain. C'est pas la solution qui devrait se profiler. Je pense vraiment qu'Ayoub Boidy va rejoindre Manchester City dès cette saison.
Bon, donc est-ce que
les temps pourraient laisser partir les deux, à la fois Boidy et Fernandez Pardo?
Bah, alors la différence, c'est déjà que les deux, donc Ayoub Boidy et Mathias Fernandez Pardo, n'abordent pas les choses de la même manière. Ayoub Boidy, bon voilà, on connaît l'entourage. Pas dire que l'entourage de Mathias Fernandez Pardo n'est pas sain, mais c'est vrai que bon, c'est des gens qui ont quand même des très bonnes relations et depuis très longtemps avec Olivier Létan. Olivier Létan, il adore Ayoub Boidy aussi. Ça, pour le coup, c'est sûr que c'est pas la même relation avec Mathias Fernandez Pardo. Et bon, on a bien compris que si à un moment donné, il faut donner un coup de pouce, s'il faut faciliter les choses, peut-être que Olivier Létan aura plus tendance à le faire avec Ayoub Boidy qu'avec Mathias Fernandez Pardo.
Après, avec qui c'est aussi logique que... de la mesure où Boidy a quand même, il a plus de valeur que Fernandez Pardo quand même.
Bah, en fait, c'est là aussi où il y a un hic, parce que Olivier Létan, déjà, de un, il n'est pas très chaud pour le vendre, et de deux, il estime beaucoup plus cher que ce que souhaitent donner les clubs jusqu'à présent, notamment l'Atlético de Madrid. On a parlé d'une offre autour de 35 millions d'euros. Olivier Létan, il le valorise à beaucoup plus. Donc, il y a aussi ce souci de valorisation. Mais ce qui risque de coincer, c'est aussi le, en tout cas, ce que Lille n'a pas beaucoup apprécié, le fait que Mathias Fernandez Pardo veuille, comme forcer son départ. Ouais. Et ça risque de jouer contre lui.
Ouais, et puis c'est peut-être plus compliqué aussi de retrouver un attaquant.
Forcer le départ, on peut forcer le départ à un certain prix, tu le vends quand même. Mais bon, on verra ce qui se passe. Létan, il a aussi dit dans quel autre club est-ce qu'il aura la garantie d'être titulaire et de jouer la Ligue des Champions. Bon, si
le départ de Fernandez Pardo serait beaucoup plus préjudiciable pour le LOSC que Boidy, par exemple.
Ah, tu penses?
Ben, avec un Nigaman blessé, Olivier Giroud, 40 ans.
Ah oui,
40
tu verras
ans,
au poste, ouais.
Ouais, et puis c'est beaucoup plus difficile. Ouais,
c'est pour ça qu'ils veulent recruter, on en parlait tout à l'heure en préambule, l'attaquant de Burnley, Ian Fleming.
Ouais. Je fais un rappel, parce que souvent, alors Kevin, là, il est encore sous le choc des chiffres. Je vais te mettre un truc en perspective.
Dis-moi.
Tu te rappelles de Kouchanov?
Oui.
À Lens. Vous vous souvenez du prix de vente de Kouchanov?
50.
Non, 45, hein, c'est...
Ouais, un peu moins de 50. Est-ce que vous vous souvenez du prix que le club de Lens...
Il avait acheté rien, Kouchanov.
Oui, il l'avait acheté, effectivement, c'était une opération magnifique.
Ouais, il l'avait acheté 500 000 ou 300 000, je crois.
Ouais, moins d'un million d'euros.
Ouais.
Est-ce que vous savez quel est le prix auquel le Racing Club de Lens a acheté le stade Bollaert?
Non, ça je ne sais pas, mais ça m'intéresse.
Parce que Lens...
Oui, ils l'ont acheté, ils sont propriétaires. 40?
Exactement, 40 millions d'euros.
Je suis pas mal dans les chiffres.
Donc en fait, c'est quand même assez... C'est quand même assez fou quand tu te dis. Donc, un joueur.
C'est ça qui est ridicule.
Un type qui. Qu'on a payé Ouais. Une misère. Ouais. À l'échelle du football, une misère. On le vend près de 50 millions. Et en fait, le transfert de ce joueur nous permet d'acheter le stade. Ouais. Le stade entier.
La question, c'est de savoir si, la question, c'est de savoir s'ils vont renommer même... une tribune à son
Mais en fait, là, tu mets de l'eau à mon moulin, là, quand même.
Bien sûr.
Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je te dis. On a quand même, on parle de clubs français. Par exemple, le Paris Saint-Germain. Ou je sais pas si c'est le cas pour Liverpool, mais le Paris Saint-Germain, ils sont même pas propriétaires de leur stade.
Oui, mais ça c'est différent parce que là le propriétaire veut pas vendre.
D'accord, mais ils sont pas propriétaires de leur stade, c'est factuel. D'accord, il y a plein de clubs français qui ne sont pas propriétaires de leur stade.
Bien sûr.
Donc en fait les mecs qui t'achètent des trucs, ils mettent des salaires à 500 000, ils sont même pas propriétaires de chez eux.
C'est différent, oui. C'est parce que.
Mais non,
pas,
mais non, c'est pas
différent.
C'est un modèle. C'est un modèle économique qui est différent. Mais non, mais il y a plein de.
C'est un modèle qui fonctionne.
C'est un modèle. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas.
Bien sûr qu'il fonctionne.
La majorité des clubs de foot sont en déficit, ça ne fonctionne
d'accord,
pas, ce n'est pas des économies viables. Il va peut-être falloir y arriver en fait à réformer le football.
C'est bien pour ça qu'il y a le fair play financier.
Mais le fair play financier, tout le monde l'a critiqué. Parce que c'était pas bien, parce que vous comprenez, ça nous empêche de grandir.
Profitons de la présence de Fabrice. On revient dans quelques secondes, Fabrice. On va parler d'autres cas particuliers. On va parler de Gouiri, on va parler d'Hojbjerg, de Malik Fofana, entre autres. On se retrouve dans quelques instants dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35, Kevin Diaz est là, Maxime Chano et là, Fabrice Hawkins également. Fabrice, il est un habitué à ces chiffres, que ça lui fait plus rien. Lui, il est là, il donne les chiffres.
Alors, Fabrice, demain, il va aller acheter une montre, on va lui dire à la Swatch, elle est à 1,5 million. Fabrice, il peut réfléchir.
Bon, continuons sur les cas particuliers. On parlait de Marseille tout à l'heure. Que peut-on dire ce soir du cas Amine Gouiri, Fabrice?
Bah, Amine Gouiri, il a des sollicitations. Après, il faut voir ce que souhaite faire l'OM et surtout la direction, parce qu'on a bien compris que Bruno Genesio comptait sur lui. Il apprécie beaucoup. Maintenant, il y a une réalité économique. Marseille doit vendre, donc ça va être un des transferts. Quand je vous disais ces jours, il faudra vraiment être connecté parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Bah, il en fait partie. Aujourd'hui, en Italie, il y a Côme, il y a la Lazio qui est de très près, il y a Villarreal aussi qui est intégré dans une shortlist depuis 6 mois maintenant. Donc il a des sollicitations et il va falloir voir avec attention ce que fait l'OM.
Oui, parce que là, tu enlèves Gouiri de l'effectif aujourd'hui, il y a gros problème quand même. Hein.
Effectivement, et peut-être qu'il faut recruter aussi, parce qu'on en parlera aussi.
T'es obligé de recruter.
Veut recruter à différents postes. J'ai même envie de dire, quand on écoute un petit peu la manière de sonder les intermédiaires, les agents, les directeurs sportifs, bah, ils recherchent à toutes les lignes, en fait. Gardien, défenseur, milieu, attaquant. Donc c'est bien qu'ils prévoient des sorties et pas qu'une.
Alors, Gouiri, donc, on ne sait pas s'il sera encore là à la fin du mercato. Hojbjerg, on a bien compris qu'on aimerait bien qu'il ne soit plus là. Il a refusé Newcastle. Est-ce qu'il y a d'autres pistes là ce soir?
Ouais, il y a le Milan qui s'intéresse à lui. Après, on sait qu'ils ont perdu.
Ça irait bien avec son rythme. Hein.
Il y a un joueur qui est sur le départ qu'on connaît bien, c'est Youssouf Fofana. Donc il recherche aussi au milieu du terrain. Après, la difficulté avec Hojbjerg, c'est que ça s'est mal passé. Il n'est pas allé à Newcastle. C'est pas très
tu comprends
pourquoi.
Sa décision, Fabrice? Excuse-moi, ça m'intéresse.
Bah, le problème, c'est qu'il y a la version officielle et la version officieuse. Officiellement, il a refusé. Officieusement, il y a eu aussi des histoires avec les différents intermédiaires qui, au bout du compte, ont demandé un petit peu plus. Un peu à l'image de ce qui s'est passé d'ailleurs dans le dossier Suzuki, le gardien japonais de Parme à Paris. Donc, c'était vraiment une histoire un peu bizarre parce que lui, au départ, semblait vraiment très motivé à l'idée d'y aller. On peut le comprendre, c'est quand même un challenge intéressant à Newcastle.
Mais on parle d'un bon
et finalement,
club,
il restait à quai.
Mais donc, alors oui, tu parlais de Youssouf Fofana. Alors à Milan,
juste sur Marseille, Gilbert peut-être préciser Jean-Claire Todibo aussi, qui pourrait arriver. Jean-Claire Todibo, ce serait quand même un gros coup de la part de l'OM, qu'on dit en perte de vitesse. Même si aujourd'hui, si on regarde, ils ont un effectif très intéressant, mais c'est vrai qu'économiquement, c'est difficile. Concrètement, aujourd'hui, quand tu discutes avec les différents joueurs, c'est très par rapport à certains agents qui ont connu Marseille il y a quelques années ou même l'année dernière, hein, quand on discute aujourd'hui avec les dirigeants de l'OM et qu'ils vous disent les salaires et ce qu'ils peuvent proposer, bon, c'est pas très sexy. Et c'est vrai qu'ils arrivent quand même à attirer sur le seul écusson de l'OM des joueurs quand même qui ont un CV, et c'est le cas de Jean-Claire Todibo, qui est intéressé par le projet, on a bien compris. Et aujourd'hui, West Ham et l'OM négocient pour savoir, dans le cadre d'un prêt, qui va payer quoi. Donc voilà où est-ce qu'on en est dans ce dossier.
Ah là, on parle d'un prêt. D'accord.
Voilà, exactement, prêt sec, et c'est la prise en charge du salaire maintenant qui doit être négociée entre les deux clubs.
Oui, parce qu'à Marseille, ces dernières années, on était plutôt sur les stratégies prêts avec option d'achat obligatoire, là,
pour pas avoir exactement.
À sortir.
J'ai un peu plombé l'air.
Mais Todibo, il a fait une bonne saison, parce que moi, bon, on était resté sur le Todibo à Nice, où ça s'était pas super bien fini d'ailleurs.
Il a pas beaucoup joué. Il est arrivé aussi dans un contexte où West Ham a recruté. Hein. Les Anglais, ils s'embêtent pas. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, quand ça fonctionne pas pendant 2 semaines ou 3 semaines, ils s'embêtent pas. Prochaine fenêtre de mercato, ils dégainent tout de suite un joueur, si ce n'est deux, à votre poste. Donc Axel Disasi est arrivé aussi dans ses pattes. Il y avait une grosse concurrence. Il s'est un peu blessé. Donc il a pas énormément joué, mais c'est un joueur revanchard qui a du talent et surtout qui veut rebondir. Et il sait que à Marseille, notamment en prenant l'exemple de son pote William Saliba, ça peut aller très très vite s'il fait des bonnes performances.
Malik Fofana, donc il a joué hier contre Fenerbahçe. Hier soir, le coach lyonnais disait il sera là au retour. Bon, est-ce qu'on a la certitude qu'il sera vraiment là au retour et qu'il ne sera pas d'ici là déjà transféré en Italie?
Le problème, c'est que pendant cette période de mercato, il y a des certitudes, c'est difficile d'en avoir. Oui. Rome est à fond sur lui, effectivement, ils veulent le faire s'ils trouvent un accord. Je pense qu'il peut y avoir un gentleman agreement sur la base de on le laisse quand même jouer le match retour qui est très important pour Lyon face à Fenerbahçe à la maison et ensuite il part. Je pense que ça pourrait se jouer comme ça. Il a les mêmes représentants.
Rentrons dans les coulisses. Imaginons que, bon, on ne le souhaite pas, hein, évidemment, s'il se blesse à ce match, dans ce match retour, ça veut dire que le transfert devient caduque?
Je prends l'exemple de Junior Kroupi à Bournemouth qui intéressait la terre entière. Et c'est vrai qu'il s'est blessé et c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est des montants.
Non, mais il n'y avait pas d'accord. Kroupi, là, si t'as un accord
à 100 millions d'euros
entre Lyon et la Roma et qu'on dit bon, ok, il y a un accord, c'est bon, tout est ok, on est ok pour vous le laisser.
Non, mais l'accord, il est sujet à la visite médicale. Si la visite médicale ne peut pas être passée, le transfert sera annulé.
Non, mais c'est intéressant ce que dit Gilbert quand même. C'est-à-dire que en fait, s'il y a un accord même de principe, il y a deux choses qui peuvent se passer. Ou ils vont essayer de renégocier le prix Rome, ce qui serait tout à fait logique. Ou alors ils vont pas faire le transfert. Mais c'est vrai que s'ils se blessent, admettons, pour 3, 4, 5 mois, ce qu'on ne lui souhaite
évidemment
pas.
C'est quand même un risque. Mais bon.
Ça peut pas être la même chose. C'est pour ça que beaucoup de clubs, dès lors qu'ils ont un semblant d'accord de principe, on l'a vu récemment même avec des comme Mika Götze ou Rodri par exemple à Manchester City, dès qu'il y a un semblant d'accord de principe, la règle dans le foot c'est il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de match, limite il n'y a pas d'entraînement.
Et s'il y avait une qualification de Lyon en champion, ça pourrait changer un peu la situation de Malik Fofana, parce que tu te qualifies en Ligue des Champions sans Malik Fofana, c'est léger devant. Hein.
Ouais, mais je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça parce que Lyon a besoin de quelques rentrées quand même. Malik Fofana. Après, c'est au joueur de décider finalement. Ça dépend si lui veut vivre cette aventure avec Lyon.
Même pour sa valeur marchande.
Ça peut être un argument en tout cas pour lui de rester.
Bien sûr. Je pense qu'il a tout intérêt à rester.
Dernier cas, suite d'Eli Wahi. Où est-ce qu'on en est? On sait qu'il veut absolument lui revenir à Nice. Alors, qu'en est-il ce soir?
Eli Wahi, c'est un petit peu comme Jean-Claire Todibo, où il veut revenir en France, il veut jouer à Nice. Le prêt s'était très bien passé. Il a conscience aussi que c'est un environnement idéal pour lui. Maintenant, le petit souci, mais je pense qu'il va se régler, c'est la prise en charge du salaire, parce que Nice n'a pas les moyens de le payer. Donc évidemment, il faut un prêt sec. Et dans ces cas-là, les joueurs, ils sont pas très très enclins, même s'ils arrivent dans un club qui a des moyens beaucoup moins important, ils sont pas enclins à diviser leur salaire par 2 ou par 3. Donc là, il faut négocier avec Francfort. Francfort veut rentrer dans ses frais parce qu'ils l'ont acheté très cher. Et donc dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, il se montre un petit peu difficile. Donc voilà, on est dans ces tractations-là de sous. Je pense que ça va aller au bout parce qu'il y a vraiment une volonté de toutes les parties. Et puis Ineos, le propriétaire niçois, a accepté de mettre la main un petit peu à la poche. Donc je pense que Eli Wahi sera niçois cette saison.
Bon, Fabrice, merci. Je pense qu'on va se parler pas mal d'ici à la fin du mercato, bien sûr.
Avec plaisir.
Et on
avec
retrouve plaisir. Toutes les infos sur rmcsport.fr.
Normalement, il y a Calderwood qui va être transféré 125 millions d'euros du côté de West Ham.
Voilà. Et je crois qu'on va prendre le présentateur de Silence ça pousse.
Ouais.
Pour.
La pelouse, elle est pas top. Pour le coup, il va avoir beaucoup de travail.
Ouais, c'est pas grave. C'est une question de potentiel, Fabrice.
Mais tu rigoles, mais je pense que bon, on en parlera en off du salaire de Calderwood.
Mais ça avait été communiqué à l'époque. On parlait d'un million par an de salaire.
Un million par an.
C'est ça, hein.
80 000 euros par an.
Quand ça joue bien et qu'il y a des primes pour tout le monde,
après, pour le coup, c'est une des meilleures recrues du Paris Saint-Germain.
Je précise qu'il s'occupe aussi des pelouses du centre d'entraînement.
Ah oui, oui.
Exactement, qui sont nickel.
Moi, j'avais joué.
Il n'y a pas de champignons là-bas, apparemment.
D'ailleurs, je l'avais croisé et félicité parce que j'avais joué à l'époque au camp des loges, match amical contre la réserve du Paris Saint-Germain. Franchement, c'était extraordinaire. Extraordinaire de jouer là-bas. J'ai joué aussi une fois au Parc des Princes. Ouais, c'est phénoménal, quoi. C'est quand même. Donc, franchement, pour le coup, c'est un bel investissement, le jardinier. C'est important.
Aujourd'hui, pour le débaucher, lui, je pense que c'est pas gratuit.
Ah, si t'as un transfert de jardinier à nous donner.
Je crois que Max, il veut refaire sa pelouse.
Mais tu rigoles, Gilbert, mais je te garantis que le jour où il est débauché, ce sera un sujet. Hein.
Bah écoute, on suit le sujet. Merci Fabrice, bonne soirée.
Salut les gars.
Dans un instant, on est de retour avec l'actu du jour. Si on a le temps, on parlera également de la filière belge qui plaît à Maxime, là, parce qu'il y a pas mal de joueurs.
Surtout, ils sont pas très chers, ça va faire plaisir à Kevin.
Eh oui, comme quand on peut travailler intelligemment avec peu d'argent.
Voilà. Bon, je sais pas si on aura le temps ce soir, mais au pire, on le fera un autre soir. Sinon. Et il est 23h45, on revient dans quelques instants avec l'actu du jour. Et les derniers épisodes à la Fédération Française de Foot concernant le soutien ou pas à Gianni Infantino. Parce que vous savez que les coulisses du football mondial, on s'active déjà pour préparer la suite. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h46, Kevin Diaz, Maxime Chanot, l'actu du jour dans quelques instants. Oui, un mot quand même sur ton histoire des filières belges. Effectivement, il y a pas mal de joueurs qui viennent de Belgique dans le championnat de France. Donc, on vend très cher, mais on n'achète pas très cher. On n'achète pas cher du tout, même plutôt en France. Moi, j'ai découvert l'existence du dénommé Pieffort. Déjà, il y a un nom de footballeur, Pieffort. C'est magnifique, à Auxerre. Donc on va le suivre.
Du coup, c'est quoi son pied fort ?
Qu'est-ce que ça veut dire surtout ?
Comment ça ?
Pied fort.
Bah, ça veut dire qu'il a un pied fort.
D'accord.
Non, mais le pied fort, c'est le pied de.
J'ai compris.
Oui, on a compris.
Donc, du coup, c'est quoi son pied fort ? Gilbert, t'as pas l'info ?
Non, j'ai pas l'info. Mais
disons que c'est un droitier.
J'attends qu'on ait un joueur qui s'appelle Faux-Pied. Ouais. C'est un droitier ?
Bah, je pense que c'est un droitier. De toute façon, il y a beaucoup plus de chances que ce soit
droitier. C'est un droitier, je te confirme.
Ah voilà, tu vois, il y a moins de gauchers, donc t'as vu le directeur sportif tout de suite.
Oui, bah voilà, c'est sûr que t'as
4 ou l'intelligent.
75% de droitier.
Il y a deux solutions. Oui. Ou les deux.
Mais pour qu'est-ce qu'ils ont de spécial en Belgique ?
Bah, je sais pas ce qu'ils ont de spécial, mais une chose est sûre, c'est que j'ai regardé les effectifs cette semaine.
Moi, je sais ce qu'ils ont de spécial.
Gilbert, j'ai vu qu'il y avait 18 Belges dans le championnat de Ligue 1, bien devant les Hollandais. C'est vrai que ça va faire bondir aussi Kevin. Ils sont seulement 6 en Ligue 1, tu le savais. Comme quoi.
Ils exportent pas très bien, les Hollandais.
Ils exportent pas très bien, ouais. Non, c'était intéressant de voir pourquoi il y avait autant de Belges qui venaient en Ligue 1. Déjà, parce que tu l'as dit, déjà, ils coûtent pas très cher. Donc, c'est vrai que quand tu regardes Fernandes Pardo, Malik Fofana, Luis Openda, bon, c'est différent parce qu'il est prêté, ou même à N'Goy. Je pense que la France a tout intérêt, justement, à aller chercher ces joueurs belges qui sont pas vendus très, très cher. Il y a aussi une réalité, c'est que la manière dont le championnat a été structuré, c'est que tu as une équipe B qui joue en professionnel très jeune. À partir de 16 ans, les gamins, ils commencent déjà à jouer professionnel. Donc, ils sont très vite matures. Et c'est aussi la raison pour laquelle, une fois qu'ils arrivent en Ligue 1, ils sont tout de suite prêts parce que, justement, ils ont déjà énormément de maturité dans leur jeu. En plus de ça, la Jupiler League, la première division belge, ressemble beaucoup à la Ligue 1. Donc, c'est vrai que le step, finalement, entre la Belgique et la France n'est pas si important. Et puis, surtout, tu regardes un petit peu dans le passé, ça fonctionne très bien. Je pense à un Jérémy Doku, par exemple. Je vois ce qui est en train de se passer avec un Fernandes Pardo, avec un Malik Fofana, avec un Nathan N'Goy que j'aime beaucoup, qui à mon avis va faire une très très belle carrière. Et puis maintenant le Paris Saint-Germain qui s'est mis avec Amika Götze, qu'on connaît un peu moins, mais qui j'imagine est aussi un très très bon joueur. Je pense que Kevin le connaît très bien aussi du côté de la Hollande. Donc voilà, c'était intéressant de savoir pourquoi justement les Français allaient chercher leurs joueurs en Belgique, quel était l'intérêt justement des clubs français d'aller piocher en Belgique, alors qu'à historiquement, c'est vrai qu'ils allaient plutôt chercher des joueurs en Sud-Amérique, en Brésil, en Argentine. Et on s'est rendu compte finalement que cette filière-là devenait beaucoup trop onéreuse pour les clubs et que ça sert à rien d'aller bien chercher bien loin. T'as juste à passer la frontière et tu trouves énormément de bons joueurs. Alors bon, il y en a qui ont pris un peu un chemin différent. Je pense à Axel Witsel, là, qui vient de signer à Nice pour remplacer à Bergel. Pour moi, c'est incompréhensible. L'avenir me dira si oui ou non ça a été un bon choix de la part de Pantaloni et de l'OGC Nice d'avoir recruté un joueur qui avance plus. Mais bon, ça, on verra un peu plus tard. Mais voilà, c'était intéressant de voir que aujourd'hui, la filière belge fonctionne bien et on le voit aujourd'hui que les clubs ont tout à gagner.
D'ailleurs, Vitesse, c'est assez marrant. On lui a demandé aujourd'hui quel va être votre rôle. Il a dit un peu comme Dante durant les 10 dernières saisons. Donc, si tu dis un mec qui avance plus,
ouais. C'est vrai que. Babysitter.
Bah, c'est surprenant. Après,
j'aime bien Axel Witsel, donc je lui laisse le.
Bah, tu l'as bien
laissé le bénéfice.
Bah, là, il avance.
Non, j'aime bien ça. Il est intelligent. Ouais. Il a suivi dès ses départs, justement ses débuts avec les standards.
Il va jouer au milieu ou il va jouer derrière Kevin Diaz, le phrasé Kevin Diaz, ouais. On peut dire qu'il a dépassé son apex.
Le prime, mais c'était pas moi l'apex. Moi, le prime.
Ah,
il est sorti de son prime. Mais moi, je peux vous dire pourquoi ils vont chercher en Belgique. Ils vont chercher en Belgique parce qu'en Belgique, je sais pas, tu m'arrêteras si je me trompe, hein, mais c'est quand même plutôt des salaires, allez, entre 10 et 20, 25 000 euros peut-être, hein, à part sur les très, très gros joueurs, peut-être dans certains clubs. Et donc, en Ligue 1, bah, c'est encore des salaires que tu peux aller chercher pour, pourquoi pas doubler un salaire, voire même tripler dans certains clubs. Et donc, ça te permet quand même d'avoir, des joueurs qui jouent au plus haut niveau, qui parlent la langue pour la plupart, donc qui ont une capacité d'adaptation plus rapide. Et comme l'a dit Maxime, le championnat de la Jupiler League, moi je le suivais depuis les Pays-Bas, c'est un bon championnat, il y a des bons joueurs, il y a des bonnes équipes, et donc c'est très intelligent de la part des clubs français d'aller chercher dans ce genre de
joueurs finalement, hein, parce qu'aujourd'hui la Ligue 1 représente vraiment une passerelle.
Exactement.
Quand tu signes en Ligue 1, on a parlé de Doku, mais c'était la même chose avec Tillmans. Donc vraiment, c'est une situation de win-win, hein. Tout le monde est gagnant, les joueurs comme les clubs français d'aller chercher les joueurs belges. Et tu l'as dit, ouais, c'est vrai que dans la, pour s'adapter, c'est assez rapide parce que déjà, la culture est quand même très proche de celle de la France, à part l'accent. Et puis surtout, ils parlent le français. Donc c'est vrai que pour une adaptation rapide, ça aide beaucoup.
On parle tous le français, hein.
Si. Les Flamands, mais les Flamands, ils parlent très, très
mais les Français,
français
ils parlent, les Flamands parlent quasiment tous français. Alors ils ne veulent
alors
pas le faire.
Les Français
ils
ne parlent pas flamand.
Ouais. Ouais. Mais ils ne veulent pas le faire, les Flamands. Tu vas, moi je me rappelle, j'allais tout le temps en Verse, j'étais à la frontière. Tu l'as, bon, déjà ils croyaient que j'étais wallon du coup, mais bon, moi je parlais français. Il n'y a pas un qui te répondait. Hein. Ouais. Par contre, derrière, ils disaient, ils étaient capables de dire, bon allez, bonne journée. Hein. Mais en fait, tu leur as posé une question. Ah mais. Je prête vite, France. Mais après, bon bah bonne journée avec un super accent et tout. Les mecs, tu sais, ils n'aiment pas parler français.
Dans les clubs pro, t'as souvent des teachers, des enseignants qui enseignent justement la langue dans laquelle tu joues. Et à Anvers, quand j'ai joué à Anvers, on avait pas mal de Français. Et ben écoute, ils ont imposé aux joueurs flamands d'apprendre le français plutôt qu'aux joueurs français d'apprendre le flamand, alors qu'on était à Anvers, pour te dire.
Ils savaient que les Français, le flamand aussi, c'est dur à apprendre.
Toujours dans les villes, il y a de la thune, Maxime Chalot, t'as remarqué, Los Angeles, New York, Anvers.
Quand t'es un bon joueur, tu choisis tes destinations.
Daniel Riolo nous rejoint. Et oui, parce que Daniel est devenu une sorte de spécialiste.
Envoyé spécial.
Des relations internationales du football. FIFA, Fédération, CONCACAF, UEFA, AFC, il connaît tout par cœur. Salut Daniel.
Bonsoir les amis, j'ai franchement failli chialer là, avec tous ces souvenirs du Benelux là, les pays de banque là, les deux là, entre Pays-Bas, Luxembourg, Belgique là, j'ai vous faisiez 10 minutes de plus là, je pense que tout le monde fuyait l'after pendant
30 minutes. Parle-nous de Diallo pour le troisième jour de suite, vas-y.
Ah non, mais il est là, c'est le vrai film d'espionnage, le film d'espionnage du moment. Tiens, mais ça va devenir une série Netflix, vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Alors Gilbert dit que c'est moi l'expert, enfin c'est lui surtout, c'est lui que ça passionne, toi ça passionne, non, alors, ces relations internationales autour du foot. Et là, ce qui est en train de se passer, mais je vous jure, ça va devenir une série Netflix. Qui soutient qui met des potes banane à qui? On envoie des fausses informations. Et puis au début, nous, on était un peu habitués avec la LFP, c'était les affaires franco-françaises, machin. Là, ça devient international. Ça part de l'Afrique, des États-Unis. C'est en train de. Je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi passionnant, vraiment. Là, attention.
Là, le truc du jour, Daniel, c'est que Philippe Diallo, qui donc va, c'est pas encore officialisé par la Fédé, par lui-même, mais qui prend la direction donc d'un non-soutien d'Infantino.
De l'opposition, on peut parler, c'est la résistance. Il est entré en résistance. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est les rentrées tard ou pas tard en résistance. Il y a des gens qui essayent de jouer là-dessus pour profiter de ça, lui mettre une petite peau de banane, mais regardez, c'est un faux résistant. En fait, en sous-main, il continue de soutenir Infantino, alors que là, très honnêtement, il n'y a plus aucun intérêt à soutenir quelqu'un qui est quasiment... Un homme mort, plus personne le soutient, puisqu'on a dit hier soir que beaucoup de gens misent aujourd'hui sur le fait qu'il ne puisse même pas venir à l'élection. Donc tous ceux qui disent attention, Diallo en sous-main, écoutez, et là on s'est demandé, mais qui a intérêt à continuer à dire que Diallo jouerait un double jeu, qu'il serait un agent double? Et là on s'est rendu compte qu'il y a des fédérations en Afrique, et notamment une fédération qui est très puissante, probablement la plus puissante du continent, Gilbert, tu le sais,
la fédération,
c'est celle du Maroc. Voilà, qui elle continue de soutenir à 100% Infantino. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déjà beaucoup avancée avec le rêve évidemment d'être le pays, enfin le pays, oui, qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030. Eux, ils n'arrivent plus à faire machine arrière. Ils continuent de soutenir Infantino. Ça envoie des infos, des fausses infos. Mais regardez Diallo, il serait dans un double jeu, si cela. Or, nous, ce qu'on peut dire ce soir, et on maintient les informations d'hier, et là, je vais vous le dire clairement, Infantino, il a parlé, pas Infantino, pardon, Diallo, il a parlé à certains journalistes. Je pense qu'il l'a fait dans différents médias. On sait parler. Si Philippe Diallo m'a menti en me disant je ne soutiendrai pas Infantino, on le saura le 8, puisqu'après le COMEX, il rendra public sa décision, eh bien on assumera le mensonge et on réglera nos comptes à ce moment-là. Mais moi, comme depuis des mois maintenant qu'il est président de la FED, il ne m'a jamais menti jusque-là, et que pour la loi du sport, pour différents dossiers, il a toujours été clair, transparent, oui, il n'y a aucun problème. Il a soutenu Infantino. Absolument. C'était après, peut-être même un de ses proches.
Il a soutenu Infantino. Après, il est.
Comme tout le monde. C'est comme tout le monde, en fait.
Il mais s'est exactement. Rendu compte des dingueries et il s'est dit, bah là,
et non, il a changé possible. D'avis. Mais bon. Je ne comprends pas pourquoi certains cherchent à dire, ouais, il a changé d'avis trop tard et tout. Et aujourd'hui, on a parlé d'un courrier. Ça a agité beaucoup de rédactions aujourd'hui. Comme quoi, il y aurait un courrier. Alors, il paraît qu'il y a des journalistes qui étaient dessus aujourd'hui. On va trouver le courrier. Le Monde, l'équipe sont dessus. Un courrier qui serait daté de post-Coupe du Monde où il y aurait indiqué le soutien de Diallo à Infantino. J'ai cherché aujourd'hui et tout, le courrier existe, mais il est daté du 29 juin. Le 29 juin, oui, Diallo soutenait encore Infantino.
Alors on était derrière, avant l'affaire Balogun, avant l'idée de vendre Balogun, la Coupe du Monde.
Il y a eu les affaires et le dossier de vente et tout ça. Mais oui, on a le droit, comme dans toute élection, machin. Bah regarde, il y a bien le numéro 3 de la FIFA qui a sauté. Là, on vient d'apprendre il y a une heure. Il y a 8 vice-présidents à la FIFA. Il y en a, j'ai oublié son nom. Là, il a un nom un peu compliqué.
Le président de la Fédé hongroise.
Voilà. Il paraît, lui aussi s'est barré. Voilà.
Bon, c'était pas Roger Chano, non?
Oui, c'est le frère de Max Chano. Donc lui pareil, il s'est barré également. Tout le monde est en train de quitter le navire. Ah oui. Et alors si les gens se rendent compte qu'un mec est en train de devenir dingo, bah tu quittes le navire, il y a pas de honte à changer d'avis. Je sais pas pourquoi. Il y a des mais attention, il y a même des gens dans le COMEX actuel de la 3F qui veulent régler leur compte. Pourquoi? Parce que Philippe Diallo est celui qui directement ou indirectement a flingué la LFP et Vincent Labrune par le biais de la loi du sport. Donc il y a des gens dans le COMEX qui
veulent lui faire payer.
Voilà, qui sont proches de Vincent Labrune notamment et d'autres, qui veulent lui faire payer à Diallo. Donc on essaye de mettre des pots de banane. Regardez, il a changé d'avis, mais en fait c'est pas vrai. Il est tout le temps, c'est un agent double. Il appelle beaucoup de fédérations en Afrique pour savoir qui est pour qui est contre. Mais même en Afrique, on l'a dit hier soir, la moitié des pays se sont retournés et ne veulent plus soutenir Infantino aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui se passe. Tous les jours, on en apprend de nouvelles. Moi, je suis en train de me passionner pour cette histoire. Là, ça me plaît bien. Là, c'est en tout cas un petit peu plus que les affaires du Benelux de Max et de Kevin. Là, leurs petits souvenirs.
Les diamants de Max.
La Ligue 1 n'a pas débuté, Daniel. Il faut qu'on parle d'actualité.
Hein. Je sais pas, Gilbert, t'as suivi ça également toi aujourd'hui. T'es à la CAN. Tu maintiens que le Maroc, eux, encore, ils sont vraiment gros soutien d'Infantino.
Mais le Maroc veut sa finale de Coupe du Monde, donc eux, ils jouent le.
Oui, mais
là,
oui, mais attention, Gilbert. Moi, je comprends pas trop le calcul. Du président qui est extrêmement puissant de la Fédé marocaine, parce que là moi je veux bien qu'on continue de jouer la carte Infantino, mais c'est une carte qui est en train de se transformer.
Infantino était présent aux célébrations de l'anniversaire du règne de Mohamed VI il y a quelques jours de cela, donc il est vraiment très très proche des Marocains pour avoir été invité à un tel événement.
Ok, alors qu'on continue à se battre pour lui et tout ça, mais attention, la carte Infantino, c'est en train de se transformer en 7 et 2, comme on dit au poker. Le 7 et 2 au poker, ça vaut pas grand-chose. Kevin Diaz, grand joueur de poker, pour en témoigner. Donc je sais pas trop ce que ça vaut aujourd'hui d'être encore derrière lui, tu vois. Même si t'as effectivement l'objectif 2030, on veut la. Il y a de très grandes chances qu'au mois de mars, il ne soit même pas le candidat. Ouais. En tout cas, c'est ce que toute l'Europe, la CONCACAF, essaye de faire aujourd'hui. Et tous les vice-présidents. Oh, c'est pas rien que les vice-présidents quittent la FIFA en ce moment. Tout le monde le lâche. Donc, le calcul de certains pays qui continuent, je comprends pas trop. Quand t'as mettre des pots de banane à Diallo sur le sujet, je comprends pas non plus. Et vraiment, là, certes, il faut attendre le 8 septembre et le COMEX pour que la décision soit rendue publique. Je sais pas s'il tiendra jusque-là, parce que la pression commence à devenir forte. En tout cas, nous, pour ce qu'on sait, ok. Pour moi, Diallo ne soutient plus 100% Infantino. Si jamais il m'a menti, on verra plus tard. Mais moi, j'y crois pas.
Merci Daniel, on se tient au courant.
Bonne continuation.
Et tu reviens dans quelques jours.
je suis de retour avec vous bientôt, vendredi soir au Vélodrome, avec Jérôme Sillon qui fait sa première un vendredi soir.
Ah oui, vendredi soir, la Walid, pour le premier match de Ligue 1 de l'année, sera au Vélodrome avec Olivier Dacherchon, Jérôme Sillon, Daniel.
Walid, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'il est en vacances à Marseille, qu'est-ce qu'il fout là? Je vois ses vidéos sur Insta, il arrête pas.
Il est bien, il est au soleil, écoute, il est content. Ciao Daniel, à plus.
Ciao les amis, bye bye.
Salut Daniel.
Deux trois infos pour finir, vous dire que on se dirige vers la nomination d'un nouveau DG à la tête de la LFP. Vous savez qu'Arnaud Rouget est parti, qui resterait pour gérer notamment les contrats commerciaux. Donc à suivre. Et puis à suivre également demain, on en parlera sur RMC évidemment. Demain, le tribunal administratif qui se penche sur le cas de Bordeaux, qui garde encore espoir que le tribunal administratif maintienne Bordeaux dans le championnat national, avec Bordeaux ne soit pas relégué en régional. On en saura plus donc entre demain et vendredi. Voilà, salut les gars, c'est fini pour ce soir. Demain, 20h, le match de Monaco.
Salut à tous.
22h, on débriefera le match de Monaco. Et demain soir, 22h également, on se projettera vers la Ligue 1 avec les paris de l'after. Oui, demain, on va parier. Et la révélation de l'année, le flop, le joueur surprise. Donc, je vous laisse tous réfléchir. On partagera nos avis demain soir. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.